Apprendre et embrasser la grâce. Aujourd'hui, nous allons examiner comment les disciples qui sont nés de nouveau à Pentecôte ont vécu et partagé la grâce, les uns avec les autres. Le passage clé de la session de ce matin est Actes 2, 42 et 43. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte, le respect, s'emparaient de chacun. Ce matin, nos orateurs examineront les choses énumérées ici dans lesquelles les croyants ont persévéré. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ce premier enseignement porte sur la première chose que les disciples ont faite. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. L'objectif de mon enseignement d'aujourd'hui est de répondre à deux questions. Quel était l'enseignement des apôtres? Et qu'est-ce que ça signifie de persévérer dans cet enseignement? Permettez-moi de vous dire d'emblée que les réponses que je propose sont les suivantes. L'enseignement des apôtres, c'est apprendre la grâce. Persévérer dans cet enseignement, c'est embrasser la grâce. C'est pourquoi j'ai intitulé cette présentation « Apprendre et embrasser la grâce ». L'enseignement est la base pour vivre et partager la grâce de Dieu. Le mot grec « enseigner » est « didasko », qui signifie littéralement « faire apprendre ». Si enseigner, c'est faire apprendre, le seul moyen pour un enseignant d'atteindre ses élèves est d'avoir un auditoire consentant, car seul un apprenant peut décider d'apprendre. Comme un jardinier qui arrose son jardin, un enseignant ne peut pas faire pousser les plantes. Il peut seulement contribuer aux conditions favorables à la croissance. C'est comme le vieil adage, on peut mener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas le faire boire. Un enseignant conduit ses élèves à la vérité, mais eux seuls peuvent décider de l'adopter comme mode de vie. En tant qu'enseignant, je ne peux pas forcer mes étudiants à apprendre, car l'apprentissage est une action qu'ils doivent entreprendre dans leur propre esprit. Mais je peux promouvoir un environnement favorable à l'apprentissage, et ensuite, c'est à eux de décider où ils veulent aller. Jésus-Christ était le maître, ce qui signifie enseignant. En vérité, il était le maître enseignant de tous les temps. Comment enseignait-il? En démontrant, mais aussi en expliquant. Acte 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. De faire et d'enseigner. Je trouve intriguant que l'expression « faire » soit citée en premier. Souvent, nous pensons en termes d'apprentissage et ensuite d'action. En revanche, le paradigme du Christ consistait à montrer d'abord, puis à raconter. Montrer et raconter était la manière dont le Christ communiquait à ses disciples ce qu'est la grâce. C'était à lui de l'afficher, mais c'était à eux de l'adopter. Jean 13, verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Combien de temps pensez-vous que ces mots ont résonné dans leurs oreilles? Pour en revenir à notre passage thématique du jour, nous pouvons nous demander quel était le point central de l'enseignement des apôtres. La grâce et non les œuvres, comme il est dit dans Actes 2, 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. La grâce n'était pas quelque chose qu'ils devaient garder pour eux. Tout le monde devait partager la grâce. C'était une bonne nouvelle comme on n'en avait jamais entendu auparavant. L'ère de la grâce avait commencé pour tous et chacun. Les apôtres ont-ils été les premiers à enseigner la grâce? Non. Mais ils en avaient tous fait l'expérience et ils étaient qualifiés de par leur apprentissage auprès du Maître pour montrer ce que signifie la vivre. C'est pourquoi leur enseignement ne consistait pas seulement à apprendre la grâce, mais aussi à l'adopter comme style de vie. Leur but était d'aider leurs étudiants à apprendre à embrasser la grâce. Pour ce faire, ils ont dû se préparer. Voyez-vous, les bases de la grâce n'ont pas été jetées le premier jour. Dieu le Père et le Christ le Fils avaient préparé le terrain pour enseigner au peuple de Dieu la grâce dans toute sa glorieuse bonté bien avant le premier jour de l'ère de grâce. Prenez un moment pour considérer tout ce que Dieu a fait pour préparer son peuple à passer à la grâce. Après des siècles d'imprégnation de la loi avec toutes ses œuvres, ce n'était pas une mince affaire, mais rien de trop redoutable pour notre grand et magnanime Dieu. Il y avait tant à assimiler dans les jours qui ont suivi la crucifixion et la résurrection du Christ. 40 jours, c'est à peine plus d'un mois, et c'était un effort quotidien pour les apôtres et les disciples, ne serait-ce que pour essayer de commencer à comprendre la signification de ce qui s'était passé jusque-là. Imaginez à quel point ils auraient pu être mis au défi lorsque, après l'ascension du Christ, ils ont commencé à comprendre que son temps sur terre était désormais terminé et que son premier avènement s'était achevé. Il aurait été facile pour les apôtres, en tant que leaders laissés pour compte, de se sentir mal préparé. Mais en réalité, ils avaient bénéficié de la plus grande préparation possible. Pourquoi en est-il ainsi? Les apôtres ont eu l'occasion, une fois dans la création, de vivre avec l'incarnation de la grâce, le Seigneur Jésus-Christ, pendant une année entière. Pouvez-vous imaginer ce que ça aurait pu être? Jean 1, 14 et les suivants rendent magnifiquement compte de leur expérience de la grâce. Écoutez-moi pendant que je vous le lis. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Maître était la plénitude de la grâce et de la vérité dans la chair, vivant avec eux, au milieu d'eux. Toujours dans le sein du Père, en tant que Fils unique, il a fait connaître le Père au quotidien. Quel plus grand enseignement, quel plus grand exemple les apôtres auraient-ils pu avoir? Quand une telle expérience de mentorat de première main sera-t-elle jamais surpassée? Pensez un instant à toutes les fois où les apôtres ont été les témoins oculaires de la grâce de Dieu pendant leur séjour terrestre avec le Maître, depuis son baptême jusqu'à son ascension. Ils l'ont vu nourrir des milliers de personnes, calmer la mer, guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts et chasser les démons. En outre, lorsqu'il a été ressuscité d'entre les morts, il leur est apparu dans son corps ressuscité à maintes reprises. Il est étonnant de constater que presque tous les signes, miracles et prodiges du Christ se sont produits en présence de tous les 12, et non de quelques-uns seulement. Le Seigneur avait certainement un but en incluant l'ensemble du couple. Il voulait qu'ils puissent faire l'expérience de la grâce collectivement. Tout cela prend encore plus de sens à la lumière de l'expérience personnelle des apôtres en matière de pardon. Les évangiles racontent qu'au moment de l'arrestation de Jésus dans le jardin, ils se sont tous enfuis. Nous connaissons toutes les hésitations de Judas et les reniements répétés de Pierre, mais tous les 12 ont eu à regretter des actes ignominieux au lendemain de la crucifixion. Pierre a pleuré amèrement lorsque le coq a chanté, mais aucun des autres n'a pu se consoler d'avoir fait mieux que lui pour soutenir leur maître au moment où il en avait le plus besoin. Mais qu'a fait Jésus lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts? Il leur est apparu dans son nouveau corps glorieux, non pas pour les condamner, mais pour les fortifier et les confirmer. Quel amour! Quelle miséricorde! Quel pardon au-delà de toute mesure! Si vous le voulez bien, vous pouvez vous reporter à Luc 4. Jésus a donné aux apôtres une démonstration parfaite de la grâce, du début à la fin. Au début de son ministère, le maître enseignant a commencé à leur expliquer la grâce à partir des Écritures en se référant à Ésaïe 61, 1 et 2. Il avait lu, tel qu'il est dit en Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer les libres les opprimés. » Toutes ces choses ne sont-elles pas des illustrations de la grâce de Dieu? Pour publier une année de grâce du Seigneur. La mission de Jésus-Christ était de publier l'année de grâce du Seigneur. En observant et en vivant avec le Maître jour après jour, les apôtres ont vu la grâce se manifester sous toutes ses facettes, tant doctrinales que pratiques. La préparation à l'enseignement était parfaite. À la fin de son ministère, le maître enseignant leur a de nouveau confirmé, à partir des Écritures, toutes les choses prophétisées qu'il avait accomplies au cours de sa vie sur terre par la grâce de Dieu. Ils ont entendu de sa propre bouche quelles étaient les œuvres qu'il avait accomplies. Luc 24, verset 44. Puis, il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses. » En clair, vous êtes un témoin de la grâce de Dieu. Alors allez, montrez et racontez. Veuillez vous reporter à Jean 16. Malgré la grandeur de son exemple, Jésus savait qu'un jour viendrait où il ne serait plus présent avec eux pour leur enseigner la vérité. Néanmoins, le Maître avait un plan qui permettrait à ses disciples de continuer à apprendre la vérité après son départ. Le Consolateur, l'Esprit de vérité, leur enseignerait tout ce qu'ils avaient besoin de savoir pendant l'ère de grâce à venir. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ensuite, au chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Après l'ascension du Christ, le rôle du Consolateur en tant qu'enseignant a été crucial pour établir exactement ce que Jésus a accompli et qui il était. Pensez simplement aux évangiles comme exemple. Si les évangiles étaient une idée de l'homme, on pourrait penser que Jésus aurait pris soin de désigner des disciples comme sténographes, et ce, à une époque où la sténographie n'existait pas encore. Tu peux répéter Jésus? Je n'ai pas pu le noter à temps. Mais les évangiles n'ont jamais été conçus comme une histoire exhaustive, en temps réel, comme le confesse Jean à la fin du sien. Les spécialistes s'accordent à dire que les quatre évangiles ont été rédigés entre 3 et 5 décennies après l'ascension. Pour vous, les personnes âgées, pouvez-vous vous offrir un compte-rendu textuel et détaillé de tout ce qui vous a été dit il y a un demi-siècle? Certaines choses peut-être, mais pas toutes. Et si vous n'aviez même pas été là, comme dans le cas de Luc, seul l'Esprit de vérité aurait pu rapporter tous ces incidents et ces vérités de la vie de Jésus dans tous leurs détails glorieux, rendus parfaitement pour délivrer à l'humanité d'aujourd'hui le plein évangile de la grâce de Dieu. Quel maître les évangélistes ont-ils eu dans l'Esprit de vérité? Un autre grand exemple de l'action de l'Esprit de vérité est celui que nous examinons aujourd'hui. Pour le premier enseignement de l'ère de grâce, il n'y en a pas eu besoin de tuteur terrestre pour apprendre ce qu'il devait enseigner, car c'est l'Esprit de vérité qui l'a instruit. L'Esprit a révélé à Pierre que, jusqu'à présent, Jésus devait être connu à la fois comme Seigneur et comme Christ. Pendant son séjour sur terre, Jésus avait été connu des disciples sous de nombreux noms. Jésus, Seigneur, Maître, Fils de Dieu, Fils de l'homme et Christ, pour n'en citer que quelques-uns. Cependant, dans les évangiles, ils ne l'ont jamais appelé Seigneur Jésus ou Jésus-Christ. De toute évidence, quelque chose avait changé avec l'ascension et nécessitait une nouvelle façon de s'adresser à lui. Le nom de Jésus était un nom masculin courant en Israël. Maintenant que Jésus de Nazareth n'était plus physiquement présent sur terre, il fallait d'autres titres pour le désigner comme celui que les Actes des Apôtres appellent à plusieurs reprises ce Jésus. Examinons les 4 occurrences du panneau indicateur ce Jésus dans les Actes 1 et 2. Chaque occurrence est un pieu dans le sol, annonçant que Jésus de Nazareth est l'homme dont nous parlons et pas un autre. Nous allons développer chacun de ces 4 signes significatifs. Ce Jésus est monté. L'expression « ce Jésus » apparaît pour la première fois le jour de l'ascension. Acte 1, verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, des anges, vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Notre premier panneau indicateur concerne l'ascension. Ce Jésus a été enlevé aux disciples et emmené au ciel, où il restera jusqu'à ce qu'il revienne sur terre de la même manière. Ce Jésus a été crucifié et ressuscité. À la Pentecôte, Pierre s'est référé à plusieurs reprises à ce Jésus pour souligner la nature singulière de ce que le Christ avait accompli. Écoutez maintenant les deux versets suivants. Acte 2, verset 23. Cet homme, littéralement, ce Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Nos deuxième et troisième panneaux indicateurs traitent de la crucifixion et de la résurrection. Ce Jésus a été crucifié par les hommes et ce Jésus a été ressuscité par Dieu. Ce Jésus est Seigneur et Christ. En amenant ses auditeurs à prendre une décision, Pierre l'appelle à nouveau « ce Jésus » pour bien montrer de qui il s'agit. Acte 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Panneau indicateur numéro 4, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Ce Jésus est Seigneur et Christ. Pourquoi est-il le Christ? Parce que Dieu lui a donné le nom de Christ lorsqu'il a été crucifié et ressuscité en reconnaissance de son sacrifice désintéressé. Ce Jésus, Jésus-Christ, est clairement le saint que David a prophétisé, affirmant que l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel Dieu, ne le laisserait pas voir la corruption ou la décomposition de la tombe, parce qu'il aurait été injuste qu'un homme innocent subisse ce sort. Pourquoi est-il Seigneur? Parce que Dieu lui a donné le nom de Seigneur lors de son ascension, en reconnaissance de sa vie sans péché. Ce Jésus, le Seigneur Jésus, est clairement le « mon Seigneur » dont David a prophétisé l'avènement, puisqu'il est monté pour s'asseoir dans les cieux. L'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel Dieu, l'a fait asseoir à sa droite, en attendant le jour où il fera de ses ennemis son marche-pied. Ainsi, le titre de Jésus est Seigneur, et le titre de Jésus est Christ. Son nom est au-dessus de tous les noms, l'affaire est close. Sous la tutelle de l'Esprit-Saint, Pierre a témoigné au peuple de l'identité de Dieu et a prouvé, à partir des Écritures, qui est le Seigneur et le Christ. Qu'en est-il des autres apôtres? Ils ont certainement fait de même. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le message des autres apôtres lorsqu'ils ont parlé en langue à la Pentecôte? Il est dit dans Actes 2, 11, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Quelles étaient, selon vous, ces merveilles de Dieu? Les apôtres étaient-ils en train d'exalter le Créateur pour la beauté de sa création? D'expliquer la parole écrite dans les étoiles? De chanter des chants de louange tirés des psaumes? De réciter de sages paroles tirées des proverbes? Ou quelque chose d'encore plus grand personnellement, je crois qu'il n'y a pas de message plus probable de leur parler en langue ce jour-là que de réitérer exactement dans les mêmes mots que Pierre ce qu'il a affirmé dans sa déclaration finale. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus. N'est-ce pas là l'une des œuvres les plus merveilleuses de Dieu? Quel que soit le contenu de leur message, Dieu aurait sans doute voulu qu'ils posent les fondements de leur enseignement après la Pentecôte. Nous pouvons être sûrs que l'idée maîtresse aurait été quelque chose comme Romains 15, verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu aurait fait en sorte que leur voix mêlée et harmonieuse s'élève vers lui en un seul cœur joyeux et indéniable, confirmant le message du salut et lui rendant gloire. Prière parfaite, louange parfaite. Père parfait, Fils parfait. Une partie du paquet de grâce livré à la Pentecôte consistait à établir une distinction claire entre le Père et le Fils. Bien que tous deux soient appelés Seigneur, ils ont chacun leur identité particulière et distincte. Prenez un moment pour revenir en arrière et regardez à nouveau Actes 2, 34 et 35, en vous concentrant sur les deux mots « Seigneur » dans ce verset. Actes 2, 34. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » En prononçant ces mots, Pierre citait les psaumes 110, verset 1. Notez alors que nous lisons ce verset de l'Ancien Testament que David avait utilisé, un mot différent, à la place de la première occurrence du mot Seigneur en Actes 2, 34. Psaume 110, verset 1. De David. Psaume. Parole de l'Éternel. L'hébreu, c'est Yahweh ou Jéhovah. Un mot Seigneur, l'hébreu c'est Adon, maître. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Les identités différentes des deux seigneurs pourraient-elles être plus claires? Le Seigneur Jéhovah, l'éternel Dieu, dit à mon maître, le Seigneur Christ, prends une chaise et assieds-toi à côté de moi. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Que maintenant et pour toujours, Dieu est l'Éternel et le Christ est mon Seigneur ou mon Maître. Le sermon de Pierre se déroule logiquement, étape par étape. Il vient de démontrer qu'une compréhension correcte de l'enseignement est que Dieu est l'Éternel et que le Christ est mon Seigneur. Une autre question doit encore être résolue. Qui est ce Jésus? Il n'a pas fallu longtemps à Pierre pour trouver la réponse. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus. Maintenant, ceux qui reçoivent volontiers le message commencent à faire le lien entre les deux. Et en fin de compte, c'est le salut. Des années plus tard, Paul a distillé la même vérité dans cette affirmation précise. Ce Jésus, c'est lui qui est le Christ. Écoutez ce qu'il dit en Actes 17, 3. Et ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Bien sûr, ce n'était pas une seule question qui préoccupait le cœur et l'esprit des gens. Non seulement les gens se demandaient qui est ce Jésus, mais aussi qui est le Christ. Les douze ont clairement enseigné que si Jésus est le Christ, alors le Christ est Jésus. Une affirmation est égale à l'autre. La beauté et la symétrie de cette équation est que si le Christ est Jésus, alors personne d'autre, passé, présent ou futur, ne peut être le Christ. Jésus est le seul et unique Christ. Les deux messages parlent d'une seule voix. Jésus est le Christ. Et le Christ est Jésus. Écoutez ce que les apôtres ont enseigné dans Actes 5, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils, les deux apôtres, ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que le Christ est Jésus. Le message sur lequel le Christ est Jésus signifie implicitement que le Christ est le contemporain, celui-là même qui a été promis il y a longtemps. Quel impact cela a-t-il? Apprendre que de votre vivant, le Christ est venu, apportant la rédemption à toute l'humanité, et que cette promesse est la vôtre et celle de vos enfants. Voilà un évangile de la grâce qui va droit au cœur. Merci Seigneur! Il n'est pas étonnant qu'une telle excitation se soit répandue dans la communauté des croyants, suscitant des conversations animées dans toute la ville et faisant circuler la nouvelle loi à la ronde. Veuillez vous reporter à Philippiens 2. Nous avons vu précédemment que l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus a envoyé le Consolateur était de combler le manque d'apprentissage causé par son absence en tant que maître enseignant. Mais ce n'est pas tout. Il a également donné aux disciples le pouvoir d'agir en son nom pour obtenir la délivrance en priant le Père au nom du Fils. Pendant qu'il était sur terre, le Christ avait déjà autorisé les douze à l'aider à accomplir sa mission en agissant en son nom pour apporter la délivrance au peuple. Cependant, par la suite, lorsque Dieu l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite, le nom du Christ a acquis une dignité, un honneur et une autorité encore plus grands qu'auparavant. Paul décrit cette investiture dans Philippiens 2, verset 8. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, en raison de la crucifixion, l'abandon par le Christ de sa propre vie pour la rédemption de toute l'humanité, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Nous revenons à Actes 2. Il n'est pas étonnant que la conclusion du sermon de Pierre ait mis en exergue le nom de Jésus-Christ comme point de contact pour la plénitude spirituelle de l'homme. Actes 2, 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Cette autorité déléguée est le moyen par lequel nous recevons le salut. Le nom de Jésus-Christ est également devenu le point de contact de la plénitude physique de l'homme. Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Cette autorité déléguée est le moyen par lequel nous recevons la guérison. Quelle audace inégalée nous pouvons avoir en agissant en tant qu'agent rempli de grâce, de l'œuvre accomplie du Christ. Nous pouvons être vainqueurs en toutes choses parce que notre Seigneur règne en maître et nous avons le droit d'utiliser son nom car il nous l'a confié. Comme nous l'avons vu, les apôtres ont fidèlement exposé les deux identités centrales de Jésus, le Seigneur Jésus et Jésus-Christ. Lorsque vous mettez les deux ensemble, qu'est-ce que vous obtenez? Seigneur Jésus plus Jésus-Christ égale Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Pierre a rapporté la conversion des païens à l'église de Jérusalem, il a utilisé le titre complet et combiné de Seigneur Jésus-Christ, pour prouver sans l'ombre d'un doute que ces incirconcis étaient en fait nés de nouveau. Actes 11, 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don que nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Ils avaient cru au Christ, le confessant comme Seigneur. Rien d'autre ne pouvait leur être demandé, pas même la circoncision. Qui étais-je donc pour m'opposer à Dieu? Comprenant parfaitement l'importance de ces vérités, que devrions-nous enseigner lorsque nous parlons de Jésus aux autres? Les mêmes choses qui ont été enseignées et mises en pratique par tous les apôtres, y compris Paul. Nous nous trouvons en train d'observer ces vérités jusqu'à la fin de sa vie. Actes 28, verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. En apprenant et en embrassant la grâce, nous prêchons et enseignons Jésus comme Seigneur et Jésus comme Christ. Rien de plus, rien de moins. Que nos vies soient un témoignage du seul et unique Seigneur Jésus-Christ et que nous continuons à prêcher et à enseigner le message de la grâce de Dieu, déclarant à un monde mourant qui il est vraiment en toute hardiesse et sans entrave. Que Dieu vous bénisse.